de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme du journal. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le programme PEN est optimisé pour compenser l'impact de PPKM, a déclaré le ministre Airlangga. Le vice-ministre des entreprises d'État, ou BUMN, dit que Kimia Pharma apporte 15 millions de doses de vaccin Sinopharm. En visite à Singapour, Airlangga a discuté de l'investissement et de l'énergie verte. L'Arabie Saoudite autorise l'entrée des personnes vaccinées avec Sinovac, mais il y a des conditions. Pékin et d'autres villes en Chine font face à une menace d'inondation. Joe Biden fait l'éloge des manifestations du peuple cubain contre les prix des aliments. Rencontre avec l'Association des hommes d'affaires américains, Bahlil promet d'aider à l'octroi de licences d'investissement. Bon, chers auditeurs, voici les journaux incomplets. Le ministre coordinateur des affaires économiques, Airlangga Hartarto, a déclaré que le gouvernement tentait de compenser l'impact de la mise en œuvre des restrictions d'activité communautaire, ou PPKM, à travers de la réalisation des fonds du Programme national de relance économique, ou PEN. C'est ce qu'a déclaré le ministre coordinateur Airlangga Hartarto lors de l'ouverture en ligne du sommet quotidien des investisseurs 2021 à Jakarta mardi dernier. Le ministre Airlangga a déclaré qu'actuellement, la réalisation de PEN a atteint 252,3 trillions de roupies, soit 36,1% du plafond total de 699,43 trillions de roupies. Le gouvernement a également fait la réallocation du programme PEN au secteur de la santé, qui reste un secteur prioritaire avec une allocation de 193,93 billions de roupies. Ensuite, le soutien du budget de l'État pour les petites moyennes entreprises et les corporations est de 171,77 billions de roupies et le cluster de protection sociale est de 153,86 billions de roupies. Des programmes de protection sociale sont mis en œuvre pour minimiser l'impact sur l'économie de la communauté, tels que l'aide sociale en espèces et l'aide de riz supplémentaire de 10 kg pour 20 millions de personnes. Le vice-ministre des entreprises d'État, ou BUMN, Pahalaman Suri a déclaré que la société pharmaceutique d'État PT Kimia Pharma avait collaboré pour apporter 15 millions de doses de vaccin Sinopharm en Indonésie. Pahalaman Suri à Jakarta a expliqué mardi dernier le vaccin de Gotong Royong était un vaccin complémentaire pour pouvoir compléter le programme de vaccination du gouvernement afin d'accélérer l'immunité collective ainsi que d'alléger le fardeau du gouvernement dans la mise en œuvre du programme de vaccination. Il a déclaré que le vaccin Sinopharm était un vaccin de Chine avec une plateforme inactivée qui a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé en mai 2021. En outre, le vaccin Sinopharm a également obtenu l'approbation dans 56 pays avec une efficacité de 79%. La rencontre du ministre coordinateur des affaires économiques Erlangga Hartarto avec plusieurs ministres singapouriens mardi a accordé plusieurs engagements entre les deux pays. Lors d'une rencontre avec le premier ministre singapourien Lee Hsien Loong, le gouvernement singapourien a souligné l'engagement de son pays à renforcer la coopération économique avec l'Indonésie et à encourager les hommes d'affaires singapouriens à continuer d'investir en Indonésie. C'est ce qu'a déclaré le ministre coordinateur Erlangga dans un communiqué reçu par Antara à Jakarta mardi dernier. La réunion a également souligné l'engagement des deux pays à établir une coopération économique avec l'Indonésie et à encourager les entrepreneurs singapouriens à continuer d'investir en Indonésie. C'est ce qu'a déclaré le ministre coordinateur Erlangga dans un communiqué reçu par Antara à Jakarta mardi dernier. La réunion a également souligné l'engagement des deux pays à développer conjointement l'énergie verte. Le gouvernement de Singapour inaugurera bientôt une centrale solaire flottante à Singapour d'une capacité de 60 MW et Singapour soutient également le développement de la zone industrielle de Kendal qui a été inaugurée par le président Joko Widodo et le premier ministre Lee Hsien Loong en 2016. Le premier ministre Lee Hsien Loong apprécie la décision du gouvernement indonésien de désigner Batam comme zone économique spéciale car cela encouragera davantage les investissements de Singapour en Indonésie. Le gouvernement soudan a désormais inclus le vaccin contre le virus corona ou COVID-19 fabriqué par Sinovac Biotech dans la liste des vaccins acceptés par l'entrée sur son territoire. Cependant, des conditions supplémentaires doivent encore être remplies si des personnes vaccinées contre Sinovac souhaitent entrer sur le territoire saoudien. Tel que rapporté par les médias malaisiens The Star, mardi dernier, le ministre des Affaires religieuses du département du premier ministre malaisien, Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri, a déclaré que le vaccin Sinovac de fabrication chinoise est désormais sur la liste qui est reconnue pour l'entrée en Arabie Saoudite. Zulkifli a appelé cette bonne nouvelle pour ceux qui veulent accomplir le Hajj et la Omra à l'avenir. Par ailleurs, le média local Saudi Gazette a rapporté que les personnes qui avaient reçu une injection des deux doses de vaccin Sinovac et Sinopharm, tout fabriqué en Chine, devraient recevoir une dose de rappel comme condition préalable à l'entrée sur le territoire saoudien. La ville de Pékin et plusieurs autres régions en Chine font face à une menace d'inondation après de fortes pluies de dimanche soir à mardi après-midi. Les activités de plein air, telles que les sports, les divertissements et les affaires dans la ville de Pékin ont été arrêtées. Les écoles maternelles et les lycées sont fermés. Les résidents vivant dans des bâtiments sujets à l'effondrement ont été évacués. Les routes et les stations de métro ont été vidées. Certaines entreprises réglementent leurs employés de travailler à domicile. Les habitants de Pékin depuis lundi sont prêts de faire face aux plus fortes précipitations cette année, selon les médias locaux mardi dernier. L'autorité de la ville de Pékin a déclaré que les précipitations de dimanche à 18h heure locale à lundi à midi étaient de l'ordre de 80,1 mm à 177,6 mm. Le président américain Joe Biden a qualifié les manifestations à Cuba d'extraordinaires et de demandes claires de liberté. Il a félicité les milliers de Cubains qui sont descendus dans la rue pour protester contre les pénuries alimentaires et les prix élevés des produits de première nécessité au milieu de la crise de coronavirus. Ce fut la plus grande manifestation antigouvernementale depuis des décennies. C'est ce qu'a déclaré Biden lors d'une brève réunion avec des journalistes avant de rencontrer le maire et les forces de l'ordre américaines citées par Macron.com mardi dernier. La déclaration a marqué un changement dans l'attitude du gouvernement du Parti démocrate. L'ancien président Barack Obama a apaisé les tensions entre Washington et La Havane et assoupli les sanctions économiques américaines contre Cuba. Le ministre de l'Investissement, qui est également le chef du Conseil de coordination des investissements, ou BKPM, Bahlil Lahadalia, a rencontré la Chambre de commerce indonésienne américaine à ICC à New York, États-Unis d'Amérique, en marge de sa visite de travail dans ce pays pour renforcer les relations économiques entre l'Indonésie et les États-Unis. Lors de sa visite, Bahlil a souligné l'engagement du gouvernement à continuer de s'améliorer pour devenir un lieu convivial pour les investisseurs via la facilité d'octroi de licences et le contrôle des investissements. Bahlil Lahadalia, dans une déclaration écrite reçue par Antara à Jakarta, a déclaré mardi dernier que les États-Unis étaient l'investisseur important pour l'Indonésie. Les relations entre les deux pays doivent être continuellement renforcées et améliorées afin que le potentiel de coopération et d'investissement des États-Unis en Indonésie puisse augmenter. Le directeur exécutif de la Chambre de commerce indonésienne-américaine, Wayne Forrest, a exprimé son appréciation pour l'amélioration du climat d'investissement en Indonésie. Selon Flores, la pandémie de COVID-19 rend les entreprises américaines incapables d'être agressives comme dans les situations normales. Mais il existe encore plusieurs entreprises qui explorent leur intérêt à investir en Indonésie dans le secteur de l'énergie et de l'électricité. C'est le journal d'aujourd'hui. Thank you.
16 000 l'antenne, bonsoir. Après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et encore le titre « Cuba sous pression économique et attaque COVID-19 ». La pandémie de corona due au virus COVID-19 affecte non seulement le secteur économique, mais aussi le secteur politique. En Amérique centrale, l'attaque de COVID-19 a déclenché une vague de protestations à Cuba. La Havane, la capitale de la nation à tendance communiste, a été inondée de manifestants. Des milliers de manifestants se sont déplacés dimanche le 12 juillet 2021 car ils considéraient que le gouvernement cubain n'avait pas réussi à contrôler COVID-19, ce qui a aggravé la vie économique du pays. Un rapport des agences de presse a déclaré que, lors de la manifestation, les manifestants ont appelé le président Miguel Díaz à démissionner de ses fonctions. Plusieurs manifestations publiques ont eu lieu cette année, mais la manifestation de dimanche aurait été la plus importante, même depuis 1994. Le gouvernement a non seulement demandé l'arrêt de la manifestation, mais selon l'agence de presse française AFP, citée par CNN Indonésie, des policiers cubains ont arrêté plus d'une centaine de manifestants. Une personne serait morte dans les émeutes à la suite de la manifestation. Concernant les manifestations qui ont provoqué le chaos, le président Miguel Díaz a blâmé la politique des États-Unis consistant à mettre en place un embargo économique sur son pays. Comme on le sait, sous l'administration de Donald Trump, Washington a réimposé un embargo plus strict sur Cuba. Auparavant, sous l'administration du président Barack Obama, avait assoupli les sanctions contre son voisin du Sud. Des sanctions économiques sous forme d'embargo commercial ont été mises en œuvre par les États-Unis depuis 1962 sous l'administration John Kennedy. Les sanctions ont été imposées pour protester contre le renversement du président Fulgencio Batista par des rebelles communistes déguisés par Fidel Castro lors d'un événement historiquement connu sous le nom de Révolution cubaine. La manifestation du dimanche 14 juillet a entraîné une escalade des relations diplomatiques avec les États-Unis. Le gouvernement espagnol, par l'intermédiaire de son ministère des Affaires étrangères, a demandé à La Havane de respecter la liberté d'expression de son peuple. La position du gouvernement espagnol a été provoquée par l'arrestation d'un correspondant d'un quotidien espagnol. Le gouvernement de Madrid a demandé au gouvernement cubain de libérer le correspondant. Bien que le gouvernement cubain ait essayé et réprimé les manifestations publiques, il n'est toujours pas certain que la manipulation par les forces de sécurité suivie de la détention de manifestants mette fin aux manifestations. La position des États-Unis, qui a été exprimée par le président Joe Biden en déclarant qu'il soutient les actions de certains Cubains, devient un signe politique que l'embargo économique ne prendra pas encore fin. Pendant ce temps, l'attaque de COVID-19 qui a provoqué une baisse du nombre de touristes étrangers à Cuba a aggravé la situation économique. Serge Ritter, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你。你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragen van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter l'histoire d'aujourd'hui. Le 14 juillet 1958, la révolution irakienne. Abdel Karim Qasim, un brigadier de l'armée irakienne, a organisé un coup d'état militaire en Irak, renversant la monarchie hachémite. Le roi irakien Faisal II, le prince héritier, le prince Abdallah et le premier ministre Nouri al-Said ont été tués lors du coup d'État. Le roi Faisal II est le dernier roi d'Irak. Qasim a repris le poste de premier ministre qu'il a occupé jusqu'en 1963. Le coup d'État a également entraîné la dissolution de la Fédération arabe de Jordanie et de l'Irak. Le 14 juillet 2004, l'ancien chef de la police indonésienne, Hugeng Imam Santoso, est décédé. Hugeng Imam Santoso a été le cinquième chef de la police nationale indonésienne qui a servi de 1968 jusqu'à 1971. Il est une figure étant respectée de la police de la République d'Indonésie, bien qu'il n'ait servi que 3 ans en tant que chef de la police nationale. Il a apporté de grands changements à la police nationale indonésienne. De plus, une attitude ferme, propre, simple et honnête a fait de son nom une légende dans la police. Il est décédé le 14 juillet 2004 à l'âge de 62 ans. Le 14 juillet, désigné comme la journée d'impôt, l'Indonésie commémore le 14 juillet comme journée d'imposition pour commémorer la première fois que la question fiscale a été proposée dans le projet de constitution lors d'une réunion de l'Agence indonésienne de préparation aux enquêtes au BPUPKI. La réunion a eu lieu du 10 au 17 juillet 1945. Le 14 juillet, le président de BPUPKI, M. Rajiman Widjodiningrat a proposé que les impôts soient réglementés par la loi. La détermination du 14 juillet comme jour d'imposition est décidée par le décret du directeur général de l'impôt du 22 décembre 2017. La commémoration de la journée de l'impôt entrera en vigueur en 2018. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
International de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. Bonne chance!
Kita telah lama berjuang bersama, suka duka, tangis tawa menjadi bagian cerita kita.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et encore le titre. KKP FAO s'accorde sur la coopération IFIS jusqu'en 2023. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, KKP et l'Agence mondiale de l'alimentation, FAO, ont convenu de prolonger la coopération en matière de conservation et d'utilisation durable des pêches en eau douce, IFIS, jusqu'en 2023. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire général du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, Antam Novambar, dans un communiqué à Jakarta dimanche 11 juillet. IFIS est une collaboration entre le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, KKP et la FAO dans le cadre du Fonds pour l'environnement mondial qui a été signé par le secrétaire général du ministère des Affaires maritimes et de la pêche et les représentants de la FAO pour l'Indonésie et le Timor-Leste en 2017. Cette collaboration a initialement duré de 2017-2021. Fin juin 2021, il a été convenu de prolonger la coopération jusqu'en 2023. Antam Novambar a expliqué que la coopération d'une valeur de 6,1 millions de dollars américains est valable pour les deux prochaines années. L'objectif est de renforcer le cadre de gestion pour l'utilisation durable de la biodiversité des eaux intérieures de l'Indonésie. Le chef du bureau des relations publiques et de la coopération étrangère de KKP, Agung Tri Prasetyo, a déclaré que la stratégie de l'IFIS consiste à l'intégration des efforts de la biodiversité des eaux intérieures dans les politiques par le biais d'activités de démonstration. La conservation et l'utilisation durable de la biodiversité des eaux intérieures sont principalement réalisées sur les habitats critiques dans 5 sites en Kalimantan, Java et Sumatra. Les principales activités d'IFIS comprennent la mise en œuvre de sites de démonstration pour les poissons Belida dans la réserve de Kampar en province de Riau, les poissons Sidat dans la réserve de Sukabumi et la réserve de Cilacap dans l'ouest et le centre de Java, les poissons d'Arowana et de Béjé dans la réserve de Kapuas et la réserve de Barito du Sud dans la province de Kalimantan du Sud. Selon Agung Tri Prasetyo, à l'avenir, les leçons apprises et les meilleures pratiques pour la mise en œuvre des fiches deviendront une référence pour l'élaboration de la politique de gestion des pêches continentales dans toute l'Indonésie. La disponibilité des meilleures politiques et gestion agira comme un catalyseur pour les efforts de gestion des pêches continentales dans divers autres types d'habitats terrestres. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
We'll be right back.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique du magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter le Mont de Cloche. Les attractions touristiques de montagne sont en effet une tendance dans la capitale de Kalimantan Oriental. L'une d'elles est le Mont Lonceng ou le Mont de Cloche. La nouvelle destination touristique est située sur le Mont de Cloche, sur la route Wikora, Pangku Palas, Samarinda, Seberang. La superficie de ce site touristique est d'environ 4,5 hectares. L'accès vers ce lieu touristique n'est pas si compliqué. De la route principale à la montagne Lonceng est d'environ 500 mètres. Le parking est assez grand. Vous pouvez payer des frais de stationnement par véhicule de 3000 rupiah. Et l'entrée dans la zone touristique est soumise à un tarif de 5000 rupiah par personne. En plus d'avoir une belle vue, cette montagne s'avère avoir une valeur historique. Au cours de la période coloniale, le Mont Cloche a été utilisé comme un lieu de combattants autochtones pour traquer les immigrants, que ce soit l'ennemi ou l'arrivée de navires marchands entrant dans Samarinda via la rivière Mahakam. Au sommet de cette montagne, une très grosse cloche est placée. La cloche sera sonnée comme un signal. En raison de cette grande cloche, les populations locales appellent ce site touristique la montagne de cloche. Le tourisme de la montagne de Cloche est ouvert au public depuis février 2020. À partir de l'échec de deux jeunes locaux qui voulaient faire de cette zone de montagne une zone agricole, jusqu'à ce qu'ils aient finalement accidentellement fait des installations pour prendre des photos pour la communauté environnante. Il y a actuellement 5 manèges pour les selfies. Il y a une forme de bateau, une main géante, un nid d'oiseau géant, une balançoire, l'emblème en forme de cœur et une flèche géante. Le week-end, les visiteurs peuvent attendre 1000 à 1500 personnes. Même s'il y a beaucoup de touristes, pendant cette pandémie, les visiteurs qui entrent dans la zone touristique du Mont Lonceng sont tenus de porter des masques presque suivre des protocoles de santé lorsque vous êtes en vacances n'importe où. Votre famille et vous seront plus à l'aise et en sécurité pour passer du temps de détente ensemble. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain.
International de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. Bonne chance!
terdiam, tersentuh karena satu senyuman. Tak mau ku pergi, melayang hati di
C'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésienne, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi Audrey? Le sujet d'aujourd'hui est Saya demam dan sakit perut. Saya demam dan sakit perut. En français, j'ai de la fièvre et j'ai mal au ventre. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Saya demam dan sakit perut. Saya demam dan sakit perut.
En français, j'ai de la fièvre et j'ai mal au ventre. Cette conversation a eu lieu entre Kevin et l'infirmière de la polyclinique générale. L'infirmière a demandé à Kevin d'observer d'abord sa tension artérielle. Bonne écoute.
Saya demam. Saya sakit perut.
Saya periksa dulu ya.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Saya demam dan sakit perut. Saya demam dan sakit perut. En français, j'ai de la fièvre et j'ai mal au ventre. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase, deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Demam. Demam. En français, fièvre. Sakit. Sakit. En français, malade. Prout. Prout. En français, ventre. Sakit prout. Sakit prout. En français, mal au ventre. Saya demam. Saya demam. En français, j'ai de la fièvre. Saya sakit perut. Saya sakit perut. En français, j'ai mal au ventre. Priksa. Priksa. En français, observer. Dahulu. Dahulu. En français, d'abord. Saya priksa dahulu, ya. Saya priksa dahulu, ya. En français, je vous observe d'abord. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu les expressions saya demam. Saya demam. En français, j'ai de la fièvre. Et saya sakit perut. Saya sakit perut. En français, j'ai mal au ventre. Ces deux expressions sont utilisées pour exprimer la douleur ressentie. Par exemple, saya demam. Saya demam. En français, j'ai de la fièvre. Et saya sakit perut. Saya sakit perut. En français, j'ai mal au ventre. Le sens de cette phrase est que Kevin a de la fièvre et qu'il a mal à l'estomac. Chers amis, écoutons encore exemple de phrase pour exprimer la douleur. Docteur, ada keluhan apa pak? Ada keluhan apa pak? En français, qu'est-ce que vous ressentez, monsieur? Kevin, perut saya sakit. Perut saya sakit. En français, j'ai mal au ventre. Des expressions comme saya demam, en français j'ai de la fièvre, et saya sakit perut, en français j'ai mal au ventre, sont des expressions couramment utilisées pour décrire la douleur ressentie dans une certaine partie du corps. Vous pouvez également exprimer la douleur que vous ressentez en d'autres termes. Par exemple, perut saya sakit, j'ai mal au ventre. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Saya demam. Saya sakit perut.
Saya periksa dulu ya.
Chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite, COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo, the getting over bragging. van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
International de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. Bonne chance!
Chers amis, c'était la 4e chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Hari baiknya
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.